Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour.
Cette semaine, dans notre entretien hebdomadaire, eh bien, nous avons un invité avec nous. Bonjour à vous, Père Giuseppe Sirighelli.
Bonjour.
Père Giuseppe Sirighelli, vous êtes le délégué diocésain à la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Alors, avec vous tous les deux aujourd'hui, nous allons évoquer la journée de prière pour les victimes des abus au sein de l'Église. C'est une journée qui aura lieu le vendredi 17 mars, donc en plein milieu du temps de carême. Vous allez nous expliquer, Père Giuseppe, comment ça va se passer, qu'est-ce que l'Église de France propose aux paroisses pour vivre vraiment pleinement cette journée de prière, mais c'est l'occasion aussi de faire un petit point avec vous deux sur cette lutte contre les abus au sein de l'Église, et peut-être commencer tout simplement par rappeler où est-ce que nous en sommes dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes en matière donc de protection des mineurs et des personnes vulnérables. Monseigneur Mika.
Je suis arrivé au mois de mai dans le diocèse. J'ai la chance d'avoir trouvé un diocèse très bien, un peu, j'ai envie de dire, un peu à la pointe sur ces questions. Monseigneur Brouvet, mon prédécesseur, avait été extrêmement attentif, tout de suite, à faire le nécessaire, à mettre en place une cellule d'écoute, à former des personnes, à nommer un délégué pour la protection et la lutte contre les abus, etc., etc. Donc j'hérite de ces dispositifs déjà en place. Il y avait déjà une charte pour la protection des mineurs dans le diocèse et aussi au sanctuaire, qu'il a fallu, on en parlera, mettre à jour et voilà, rajouter les éléments qui se sont imposés depuis qu'elle avait été rédigée. Il était prêt un protocole que j'ai pu signer tout de suite en arrivant avec le procureur de la République dans une démarche commune avec beaucoup de diocèses en France. Donc voilà, il y a tous ces éléments déjà bien en place. On a la chance d'avoir au sein de la cellule d'écoute du diocèse quelqu'un qui a été repéré à Paris pour faire partie de l'INIR, l'instance de reconnaissance et réparation de la Conférence des évêques de France. Donc c'est dire la qualité des personnes qui sont là et puis le sérieux du dispositif, quoi.
Alors, un mot plus précisément sur les chartes de protection donc des mineurs et des personnes vulnérables. Il y en a une pour le sanctuaire de Lourdes et puis une pour le diocèse. Vous pouvez nous expliquer le contenu de ces chartes et l'objectif de ces chartes, Père Giuseppe Sirighelli.
À propos de la charte du sanctuaire, elle a été signée par Mgr Mika justement le 11 février 2023 et elle est en fonction actuellement. Cette charte concerne les chapelains, tous les prêtres qui viennent ici, par exemple comme confesseurs auxiliaires, les séminaristes, les bénévoles et les salariés du sanctuaire. Tout cela a été mis en place pour bien garder et garantir la vie pour les gens qui viennent sur le sanctuaire de Lourdes, les pèlerins et surtout les personnes handicapées, tout le monde. On est vraiment, on nous demande d'être bien attentifs, responsables, afin que le sanctuaire soit une maison sûre pour accueillir tous ces gens-là. Il y a des engagements à prendre, par exemple, pour les chapelains et aussi pour les prêtres, il faut signer une feuille de responsabilité, les confesseurs auxiliaires, les séminaristes, les bénévoles, les jeunes qui travaillent au village des jeunes. Et aussi, maintenant, il y a des vidéos qui expliquent ce que le sanctuaire fait pour garantir la sécurité, être tout le monde qui puisse être à l'aise en venant à Lourdes. Et en plus, pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il y a une charte diocésaine que Mgr Mika connaît très bien, évidemment, et qu'elle doit être publiée dans le mois à venir.
Alors, il y a déjà une charte qui est en vigueur et qui est en train d'être retravailler parce qu'il y a toujours au fil du temps des choses à ajuster. C'est ce travail-là qui est sur le point de se terminer, Mgr Mika.
Voilà, exactement. Alors, pour ce qui est du contenu de la charte elle-même, les choses sont bouclées. On a repris l'ancienne charte qui est toujours en vigueur, bien sûr. Et puis aussi des éléments nouveaux qui se sont imposés, comme par exemple la nécessité de fournir un extrait de casier judiciaire pour attester qu'il n'y a jamais eu de condamnation pour des faits d'abus, etc. Cette obligation, elle concerne toutes les personnes en contact avec des mineurs et des adultes vulnérables. Alors ça, c'est un élément nouveau dans la nouvelle charte. Et il faut évidemment mettre en place une pédagogie pour expliquer pourquoi cette disposition, l'objectif étant de regagner, de reconquérir, j'ai envie de dire, la confiance des parents qui confient des enfants à une paroisse pour la catéchèse ou à une école catholique ou à un mouvement ou un service diocésain de pastoral des jeunes pour un camp de luge ou de vacances d'été, pour les JMJ, enfin que sais-je. Voilà. Donc il faut vraiment reconquérir la confiance. Pour ça, il y a des dispositions très très précises qui sont inscrites dans la nouvelle charte, qui complète l'ancienne charte toujours en vigueur, mais donc les contenus sont au point. Ce qu'il convient de finir de mettre au point, c'est la stratégie et la pédagogie pour donner l'information à toutes les personnes concernées. Imaginez l'émotion d'une dame qui fait de la catéchèse dans sa paroisse depuis 30 ans et à qui on demande pour la première fois de fournir un extrait de casier judiciaire. Bon, on ne peut pas dire ça comme ça de but en blanc, même si c'est ce que je suis en train de faire par la radio. Mais voilà, il faut expliquer, tranquilliser que ce qui sera communiqué dans cet extrait de casier judiciaire concerne strictement une éventuelle condamnation pour acte criminel ou délictueux en matière d'abus sexuels sur mineurs. Si vous avez eu des contraventions ou des problèmes avec le fisc, ça ne figurera pas sur l'extrait en question. Voilà.
Donc ça, c'est quand même une annonce. Hein. Toutes les personnes qui sont en mission, en service auprès des mineurs, des enfants, des jeunes. Alors, dans notre diocèse, on a aussi le patronage, on a de nombreux camps de jeunes, mais on parle aussi des personnes qui sont en mission auprès des personnes malades, donc toute la dimension de la pastorale de la santé. Toutes ces personnes-là sont concernées donc par ce nouvel élément de la charte, donc il faudra désormais fournir un extrait de casier judiciaire pour pouvoir concrétiser sa mission, s'inscrire dans sa mission.
Mais il faut bien dire que c'est un extrait de casier judiciaire qui porte exclusivement sur ce point. S'il n'y a rien sur ce point, le casier sera vierge.
Alors une fois qu'on a donné son extrait de casier judiciaire et qu'on a signé la charte, j'ai un peu envie de vous dire, ça ne suffit pas. Encore faut-il se former, être accompagné et être peut-être entouré de personnes qui demeurent vigilantes.
Ben, ça c'est vrai, parce que ça ne suffit pas de signer et de lire la charte et tout c'est terminé. Il y a sur le diocèse, mais aussi dans le milieu de la province ecclésiastique de Toulouse, qui comprennent 7 diocèses, de moments de formation. Par exemple, on a eu le 12 janvier à Toulouse une journée dans laquelle nous étions là plus de 200 personnes qui venaient de tous les diocèses de notre région ecclésiastique pour vraiment se former et être vraiment capable d'avoir cette conscience de rendre l'Église une maison sûre pour accueillir et pour être capable aussi de bien discerner ce qui arrive quand on a un cas d'abus et tout cela.
Alors, nous avons l'engagement, nous avons la formation. Ça, c'est pour les personnes qui sont engagées au service des mineurs ou des personnes vulnérables. Maintenant, il y a un deuxième volet, c'est l'accompagnement, l'écoute, l'accueil des victimes. Et ça, c'est le travail de la cellule d'écoute, précisément. Alors, c'est important aussi de profiter de cet entretien cette semaine pour faire un point là-dessus. Comment travaille la cellule d'écoute? Comment ça fonctionne?
Alors, ces coordonnées sont indiquées dans plusieurs lieux, hein, soit sur les affiches à poser en divers endroits, soit sur le site du diocèse. Donc y a les gens qui cherchent les coordonnées de la cellule d'écoute peuvent les trouver facilement et donc saisir directement la cellule d'écoute. Ou bien faire une démarche auprès de telle ou telle autre personne qui saisira la cellule d'écoute pour elle, qui fera un signalement. En tout cas, quand la cellule d'écoute est informée d'une situation, soit par lettre, soit par appel téléphonique, soit par contact direct, elle se met en contact avec la personne victime et va la rencontrer, l'écouter. Alors pour ça, il y a au sein de la cellule d'écoute plusieurs personnes qui ont été formées pour cela et qui vont, avec beaucoup d'écoute, de sérieux et de professionnalisme, j'ai envie de dire, mais aussi de cœur, de compassion, enfin, écouter le récit qui, quelquefois, se fera pour la première fois de ce que la personne victime a vécu, a subi, son traumatisme, etc., etc. Donc elle va enclencher un processus d'accompagnement de la personne, lui proposer diverses formules d'accompagnement, diverses solutions, enfin diverses aides, mais en parallèle fera aussi un signalement aux autorités, alors à l'autorité du diocèse d'une part, et d'autre part à l'autorité judiciaire concernée, et en général le procureur de la République, en lui donnant les éléments, et ensuite le procureur décide s'il y a lieu de déclencher une enquête ou pas, etc., etc. Voilà. Mais donc les responsables de la cellule font les deux choses. Ils accueillent la victime, son récit, ils mettent en place un dispositif d'accompagnement, d'aide, etc. pour la personne, et ça peut durer des semaines, des mois, peut-être des années, et en parallèle, ils font le signalement que la loi oblige à faire, et à l'autorité de l'Église d'une part, et ensuite, conjointement, avec l'autorité en question, auprès du procureur de la République. Alors c'est vrai auprès du sanctuaire, c'est vrai aussi pour le diocèse.
Qu'est-ce que le protocole signé avec le procureur de la République, entre le diocèse et le procureur de la République, a changé justement dans cette manière de travailler et de partager les informations ?
Alors, j'ai envie de dire, du côté des responsables de l'Église, c'est le fait de peut-être d'être plus spontanément, facilement en lien avec le procureur de la République pour partager des informations, demander des conseils aussi sur l'attitude qui paraît la plus ajustée, adaptée à la situation, pour pas non plus... pour avoir l'attitude juste. Bon, très bien. Donc de faciliter cette prise de contact avec le procureur. Et inversement, si le procureur est saisi en direct par des victimes, par des personnes qui font un signalement impliquant un prêtre, un clerc, à ce moment-là, le procureur, en signant le protocole, s'engage à en informer l'autorité de l'Église pour que, sans tarder, l'autorité de l'Église puisse enclencher aussi la procédure juridique propre à l'Église.
Aujourd'hui, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, il y a combien de victimes qui sont accompagnées par notre cellule d'écoute ?
Alors, à ma connaissance, parce que les responsables de la cellule m'informent dès qu'un nouveau cas leur est signalé, actuellement, on compte 3 personnes formellement accompagnées par la cellule d'écoute. Je crois important de rajouter que, outre les coordonnées de la cellule d'écoute sur le site du diocèse ou les affiches ou des courriers, etc., sont indiquées aussi les coordonnées de France Victime ou du procureur de la République. Il paraît important que nous puissions donner au maximum ce maximum d'informations parce que des personnes victimes peuvent ne pas être complètement à l'aise avec une cellule d'écoute qu'ils peuvent percevoir comme étant une instance de plus que l'Église met certes en place, et même si c'est sincère, ça reste une instance d'Église, et ils peuvent ne pas être complètement à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir donner aussi les coordonnées de France Victime et d'autres organismes pour que les personnes puissent le plus facilement possible, la démarche est déjà en soi suffisamment compliquée et difficile, accéder à un lieu où elles peuvent enfin parler.
Vous nous dites, Monseigneur Mika, qu'actuellement la cellule d'écoute accompagne 3 personnes victimes. Il y a peut-être parmi nos auditeurs des personnes qui diront « bah oui, mais c'est pas assez de nous dire ça, il faut nous en dire plus ». Et c'est quelque chose qu'on entend souvent, pas seulement au niveau local, mais aussi au niveau national, des gens qui réclament qu'on leur dise tout. Alors là, il y a peut-être un curseur à bien placer entre la protection des victimes précisément et puis la nécessité d'être dans la vérité. Comment il faut se positionner par rapport à ça, Monseigneur Mika ?
Ben, il ne faut pas rajouter délit sur délit, délit sur crime, etc. Et donc, on est tenu de respecter la loi. En France, la présomption d'innocence, bon. Et donc, quand un signalement est fait, désormais, on est suffisamment alerté pour prendre très très au sérieux la parole de la personne victime qui se présente. Et donc, le père Serighelli a évoqué une enquête. Il s'agit de ce qu'on appelle l'enquête préalable, qui sert à établir la vraisemblance des faits qui sont exposés. Une fois cette vraisemblance établie, et ça c'est requis à la fois par la justice de l'Église et la justice de l'État, le procureur nous demande de faire cette enquête préalable pour établir la vraisemblance de la démarche, enfin de ce qui est exposé. Parce que sinon, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses abusives, également abusives, enfin en tout cas abusives aussi. Bon. Et donc, cette enquête préalable, on l'a fait avec les moyens qui sont les nôtres, mais donc une enquête dans les archives, lorsqu'il s'agit de faits anciens, éventuellement de prêtres décédés, c'est le cas pour deux des trois personnes accompagnées actuellement, anciens élèves d'une institution catholique du diocèse, le prêtre incriminé, ancien professeur dans cette école dans les années 60, vous vous rendez compte le temps qu'il faut pour que la personne arrive enfin à confier ce qu'elle a pu subir, hein, toute sa vie marquée par cela. Bon. Et donc, une fois que la personne a parlé, ben on regarde dans les archives, on interroge des témoins de l'époque, etc., etc. Et une fois la vraisemblance établie, ben on a suffisamment d'éléments pour faire ce que la loi nous oblige à faire d'une part, c'est-à-dire un signalement au procureur de la République, qui ensuite, lui, ben, fait les choses selon la loi française. Et puis, du côté de l'Église, faire le nécessaire également. Alors évidemment, quand les personnes sont décédées, il ne peut pas y avoir de condamnation de la personne décédée. Par contre, il peut y avoir condamnation de l'institution qui, à l'époque, n'a pas peut-être fait ce qu'elle aurait dû faire à l'égard des victimes si elle était en connaissance de cause, par exemple. Et donc, ça n'éteint pas toute procédure judiciaire, ni au plan canonique, de justice de l'Église, ni au plan civil.
Et si la personne accusée est encore en vie, c'est là que vous avez, vous, en tant qu'évêque du diocèse et avec le procureur, la responsabilité de respecter à la fois la présomption d'innocence, mais en même temps de faire preuve d'une grande prudence pour protéger les personnes qui pourraient encore être en contact avec la personne accusée.
Absolument. Alors désormais, l'a priori est de croire les personnes qui font la démarche qu'elles font. Et on part de ce principe que c'est déjà assez compliqué comme ça pour elle de faire cette démarche, un minimum d'enquête autour de la personne en question, mais enfin une enquête, vous voyez bien, on voit bien si on a affaire, on voit vite si on a affaire à quelqu'un qui affabule ou pas. Bon, désormais, l'a priori est de croire la personne et tout de suite de mettre en place les éléments nécessaires pour empêcher son agresseur de continuer de nuire si tant est qu'il est en effet un agresseur. Pour ça, c'est un jugement formel qu'il établira au terme d'une procédure judiciaire qui peut être longue. Et donc la justice prévoit de prendre des mesures dites conservatoires, c'est-à-dire qu'on ne se prononce pas sur l'issue finale, coupable ou pas coupable, mais on prend des précautions pour que si il était coupable, il ne puisse pas continuer de nuire. Donc, il faut avoir bien en tête que des mesures qui sont prises, quand elles sont des mesures conservatoires, ne se prononcent pas sur l'issue du procès, du jugement ultime, mais simplement prendre les précautions nécessaires pour que, si prédateur il y a, il ne continue pas de faire d'autres victimes.
Alors, ce vendredi 17 mars, c'est une journée de prière pour les personnes victimes des abus au sein de l'Église. C'est une journée de prière nationale, hein, qui est proposée par l'Église de France pour tous les diocèses, pour toute l'Église de France. Comment ça va se passer, Père Giuseppe Serighelli ?
Alors, comme vous disiez, c'est une journée proposée par la Conférence des évêques de France. On l'a déjà vécu, cette journée, l'année dernière, et on a choisi le 17 mars, c'est un vendredi, le vendredi de la troisième semaine de carême, pour permettre aux communautés qui se rassemblent, par exemple pour un moment de prière, un chemin de croix ou d'autres réalités, de prier pour les victimes. Il y aura dans les semaines prochaines, on enverra une boîte à outils afin que les paroisses puissent bien organiser ce moment. On peut le vivre même le 17, mais aussi le dimanche suivant, parce que peut-être que pas toutes les paroisses se réunissent le vendredi. Le dimanche prochain, durant la messe, ou organiser un moment particulier de prière pour cette intention-là.
Voilà, donc cette journée de prière, vendredi 17 mars, une journée de prière nationale pour les victimes des abus au sein de l'Église. C'est important hein, que chacun puisse avoir ces éléments pour prendre un temps, s'arrêter en paroisse ou en groupe de prière ou dans les différents services ou mouvements, s'arrêter pour prier donc pour ces victimes. On rappelle avant de se quitter les coordonnées de la cellule d'écoute dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, il y a... un mail, parole de victime, victime au pluriel, parole de victime, tout attaché en minuscules, @catholique65.fr. Toutes les coordonnées de la cellule d'écoute et puis des autres instances ou associations qui sont à l'écoute des victimes sont disponibles hein, sur le site du diocèse catholique65.fr. Il y a aussi bien sûr un numéro d'aide aux victimes, un numéro national, le 116 006. 116 006, c'est un numéro mis à disposition par le ministère de la Justice. Voilà, numéro d'aide aux victimes, un service gratuit et disponible bien sûr 7 jours sur 7. Merci à tous les deux, Père Giuseppe Sirigelli, Monseigneur Jean-Marc Mica, pour cette émission un petit peu spéciale, mais nécessaire pour faire le point donc sur ce sujet très important, prioritaire, qui est la protection des mineurs et des personnes vulnérables dans l'Église. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.